Bienvenue aux Apatrides Anonymes sur choc.ca. Marie-Ève au micro pour cette émission du 11 juillet. Pour celles et ceux qui nous écoutent pour la première fois, ben les Apatrides Anonymes, c'est une revue bimensuelle commentée, expliquée, décortiquée. Trouve-moi un synonyme.
Détaillée.
Détaillée, Mathieu, analysée. Oui, analysée.
Critiquée.
Bon. OK, vous avez entendu mes deux comparses, Mathieu et Simon.
Bonsoir.
Qui vont s'alterner en studio et en régie.
Bonsoir.
Alors, donc, je disais, cette revue amplement synonymisée des actualités nationales et internationales en lien avec l'immigration, le racisme, l'extrême droite, les abus policiers, les enjeux autochtones et plus encore. Aujourd'hui, pour ma part, je vais vous présenter quelques nouvelles en provenance du Royaume-Uni et de l'Italie. Je vais aussi aborder les difficultés que rencontrent les ressortissants de pays africains pour venir, pour obtenir un visa de l'Union européenne. Et je vais présenter différentes initiatives d'ici pour lutter contre le racisme dans les résidences pour aînés, mais aussi pour offrir des logements et des soins de santé aux Autochtones en milieu urbain et périurbain, disons. Et toi, Mathieu, tu nous parles de quelques enjeux...
En immigration, au fédéral et au provincial, ici, et je vous parle dans quelques minutes de la France, le racisme en France.
Oui, tu vas revenir un petit peu sur les législatives, je pense.
Un petit peu, mais on fera pas d'analyse
à la Mathieu Bocoté.
J'espère que non.
À la CNews, non.
À la CNews
d'extrême-gauche,
ouais. OK. Quant à Simon, ben toi, un sujet qu'on pourrait qualifier de pléonasme, racisme et police.
Oui, puis ce sera pas à la Rebel News.
Non.
Pas mal police locale.
Puis tu vas nous faire une tournée aussi de plusieurs pays de l'Europe de l'Est.
Ouais, Hongrie puis les Balkans, principalement.
Parfait. Alors, t'es-tu prête à nous commencer ça, mon cher?
Je sais pas. Allons-y.
On pourrait qualifier l'année 2024 de super année électorale parce que près de la moitié de la population mondiale en âge de voter est appelée à se rendre aux urnes cette année pour un nombre record de scrutins là, de différents paliers de gouvernement. Mathieu va un petit peu nous revenir sur les législatives françaises dans 15 minutes, dont le second tour avait lieu le 7 juillet. Mais trois jours plus tôt, c'était aux Britanniques d'aller voter. Et donc, après 14 ans à la tête du pays, le Parti conservateur s'est fait dégommer par le Parti travailliste de Keir Starmer. Alors, bye-bye Rishi Sunak.
Oh, c'est triste!
Comme en France, ben l'immigration était un des principaux thèmes de la campagne électorale. Il faut dire que un peu plus de 14 000 personnes migrantes sont arrivées au Royaume-Uni par la Manche depuis le début de l'année, soit 10% de plus qu'à la même période l'an dernier. En gros, les approches qui s'opposent sur cette question-là ben, sont les mêmes qu'au Québec ou que partout ailleurs. C'est-à-dire, bon, d'un côté, l'augmentation du nombre de personnes migrantes pèserait sur le système de protection sociale et sur l'économie du Royaume-Uni, qui vient à peine de sortir de la récession. Et de l'autre, ben, elle permettrait de relancer l'économie et de faire face aux défis d'une population britannique vieillissante.
Ben oui.
Surtout que beaucoup de ces personnes-là travaillent dans les secteurs de la santé et des services d'aide aux personnes, deux domaines qui ont bien de la misère à recruter. Alors, le pire des partis était sans conteste le Reform UK de Nigel Farage, qui est un partisan de l'immigration zéro. Il a même dû désavouer trois de ses candidats à quelques jours seulement des élections pour des propos racistes. Je vous présente nos trois champions en question.
Il y en avait d'autres, je pense, mais ça c'est...
Oui, d'abord, Edward Oakenfull, candidat dans le centre de l'Angleterre, avait, selon la BBC, publié l'an dernier sur les réseaux sociaux des commentaires selon lesquels le QI des personnes originaires d'Afrique subsaharienne serait inférieur. Il avait soutenu que ces propos-là avaient été cités hors contexte, un classique. Ensuite, Robert Lomas, lui, avait, selon le Times, déclaré que les personnes noires devaient, je cite, « lever leur cul de fainéant » et arrêter de se comporter, je cite encore, « comme des sauvages ». Le parti avait invoqué là aussi des citations partielles hors contexte.
C'est dur.
Un classique, je vous disais. Enfin, Leslie Lively, elle, c'est quand elle fait reprocher d'avoir qualifié sur les réseaux sociaux les migrants qui traversent clandestinement la Manche d'ordures.
Ah ben oui.
Et donc, Nigel Farage, le chef de ce parti, s'est défendu en affirmant notamment qu'il existe, je cite, « des gens qui disent de mauvaises choses dans tous les partis ». Sauf que le Reform UK, apparemment, ben, en contient plus que d'autres, puisque, selon l'association de lutte contre le racisme Hope Not Hate, le parti avait déjà dû renoncer à 166 candidats depuis le début de l'année, la plupart en raison de propos racistes ou offensants. Et donc, pour revenir à la victoire des travaillistes, le nouveau premier ministre Keir Starmer a annoncé la suppression du plan Rwanda, qu'il juge coûteux et inefficace. Je rappelle qu'il s'agissait d'un élément clé de la stratégie des conservateurs depuis 2022 en matière d'immigration. Mm-hmm. Il y a même environ 800 agents qui avaient d'ailleurs été déployés sur les territoires pour mener des interpellations de demandeurs d'asile, dont les premières expulsions ont commencé en mai, avec l'objectif de faire décoller les premiers vols en juillet. Mm-hmm. Pas les premières expulsions, les premières interpellations, pardon.
Ouais.
Ouais. Les personnes arrêtées, une cinquantaine, ont finalement été relâchées le 12 juin dernier. Reste que l'arrivée de Keir Starmer n'est pas nécessairement synonyme d'assouplissement de la politique migratoire britannique, puisqu'il ne compte pas pantoute rouvrir de voies légales de passage. Il entend plutôt multiplier les accords européens et bilatéraux pour enrayer les départs de migrants depuis les côtes françaises. Et il veut surtout se concentrer sur la lutte contre le trafic d'êtres humains, c'est-à-dire sur les passeurs. Concrètement, il veut réaffecter les fonds du programme rwandais, dont le coût a été estimé à 541 millions de livres sterling sur 5 ans, d'après le Guardian. Donc, il veut réaffecter ces sommes-là à la création d'un nouveau commandement d'élite de la sécurité des frontières.
Ooh.
Le Labour souhaite aussi que les travailleurs britanniques soient formés aux métiers en tension pour éviter d'avoir à recourir à une main-d'œuvre étrangère. Il prévoit de rebâtir, je cite, « l'intégrité et les règles du système d'asile britannique ». C'est que selon un récent rapport parlementaire qui dresse un bilan s'arrêtant en juin 2023, 215 500 demandeurs d'asile sont encore en attente d'une réponse à leur dossier. Donc, l'idée, ce serait d'engager là, des centaines de travailleurs sociaux pour former une nouvelle unité là aussi chargée là, d'étudier ces demandeurs d'asile. Donc, bon, à gauche, mais pas tant.
Non, puis il irait d'une très belle situation d'ailleurs, on espère qu'il va pas empirer. Là.
Non, c'est ça. Fait que, ben voilà, c'était ma façon de mettre la table pour toi, Mathieu.
Ben oui, de parler des élections, faire des liens entre... D'ailleurs, les chiffres là, sur les traversants en Manche, je les avais dans mon texte, fait que je ne répéterai pas, t'es déjà dites.
Ben
écoute,
oui.
Marie-Ève. Ben moi, je vais commencer avec... en parlant de racisme, ben, je vais parler en général de racisme en France, mais je vais commencer avec des chiffres. Pas des chiffres des résultats, mais des chiffres qui viennent d'un rapport. L'année 2023 a été marquée par une montée des crispations identitaires et une progression sensible de l'antisémitisme et du rejet de l'immigration, affirme la Commission nationale consultative des droits de l'homme, hein, on est en France, dans son rapport annuel. Le texte souligne également l'existence d'un antisémitisme à gauche, mais sans comparaison avec celui de l'extrême droite.
Ben non, c'est juste Jean-Luc Mélenchon.
Oui, oui. Puis la France des insoumis, là, oui. Ainsi, 56 % des Français, en hausse de 3 points, estiment qu'il y a trop d'immigrés en France et 51 % en hausse de 3, qu'aujourd'hui en France, on ne se sent plus chez nous, comme chez soi, comme avant. La part des Français estimant que...
C'est comme c'était.
La part des Français estimant que les étrangers devraient avoir les mêmes droits que les Français recule de 5 points à 52 %. Dans un paysage où certains préjugés restent fortement ancrés, les Roms sont la minorité la plus stigmatisée et les musulmans sont vus de façon clivante. 32 % une opinion positive de la religion musulmane et 32 % une mauvaise. Ça, c'est des chiffres dans le rapport. On n'est pas tellement surpris.
Non, c'est ça.
D'ailleurs, si vous voulez lire sur l'antisémitisme, il y a un bon texte qui s'appelle « L'éléphant dans la pièce » sur le média, je connaissais pas, lameridienne.info, qui parle un peu de l'antisémitisme et de la haine anti-arabe pendant les élections. Un petit extrait. « Accablement total aussi devant cet éditorial du Monde intitulé « L'antisémitisme de droite ou de gauche, une même prison » qui renvoie dos à dos les forces progressistes de ce pays, un parti cofondé par un ancien Waffen-SS.
»
On parle bien du Front National, évidemment.
Ben oui.
Oui. Sinon, ben, avant les législatives, on parlait un peu du nord de la France, où le Rassemblement national a obtenu des scores élevés aux élections européennes. Les associations d'aide aux migrants étaient très vigilantes dans cette période-là.
Ben oui.
Elles ont dénoncé une libération de la parole et des actes racistes contre les populations exilées. Plusieurs incidents ont été recensés entre les législatives, entre les européennes et les législatives. Par exemple, à Dunkerque...
Dans le coin de Calais, là, j'imagine.
J'y arrive. Oui, à Dunkerque, par exemple, dans le campement de Lune Plage, où survivent des centaines de migrants. Dans la nuit du 13 au 14 juin, la cuve qui alimente en eau potable les exilés a été volontairement contaminée par un agent étranger. Un liquide bleu s'en échappait au petit matin. Bleu, hein, comme France, hein, c'est fantastique. L'extrême droite s'est enracinée peu à peu sur ce territoire, devenu pour le RN le symbole d'une immigration incontrôlée, incontrôlable. De 41% en 2019, le RN a fait plus de 50% au scrutin de 2024 à Calais, particulièrement.
Qui est, je crois, la circonscription de Marine Le Pen? Ou...
Pas Calais directement, non.
Non, le Pas-de-Calais.
Oui. Mais pas la ville de Calais. D'autres exemples, j'ai reçu des témoignages de personnes exilées qui ont reçu des jets d'eau de Javel à un arrêt de bus, explique Juliette de la place du Secours catholique à Calais. Un autre m'a dit qu'il s'est fait jeter dessus une bombe à eau avec un liquide sale à l'intérieur. Une voiture a ralenti à proximité de l'association et des individus ont jeté des projectiles contre des exilés qui se trouvaient sur le trottoir. Pour Pierre Roch de l'association Auberge des migrants, c'est triste. Ce sont sûrement des gens qui, parce qu'elles ont un fort sentiment de déclassement, se retournent sur les personnes encore plus précaires qu'elles. On savait que ça arriverait un jour, commente Claire Milot de l'association Salam. Je milite dans le Nord depuis des années, mais je n'ai jamais craint les violences de ce genre. Mais maintenant, je vérifie que ma maison ne soit pas taguée quand je pars de chez moi, que ma messagerie n'héberge pas de mails d'insultes. L'association Utopia 56 dit se tenir sur ses gardes aussi. C'est pas nouveau de faire face à l'extrême droite. On a déjà eu des dégradations de nos locaux, de nos véhicules. Mais on craignait l'amplification de ce phénomène avec le score du RN. Il n'a même pas fallu une semaine avant que des actes hostiles arrivent. Voilà, pour le portrait dans l'art entre les européennes et les législatives, donc au mois de juin. Promesse du nouveau Front populaire en matière d'immigration. On commence avec le programme entier ou presque du RN repose sur la lutte contre l'immigration. La coalition de Macron est partisan d'une ligne dure illustrée par la loi Asile et immigration de décembre dernier, qui reprenait des idées portées par le parti d'extrême droite. La gauche, en revanche, est sur une ligne opposée en défendant notamment un accueil digne des migrants et la naturalisation des travailleurs sans papier. Le NFP veut créer dès cet été des places d'hébergement d'urgence permettant un accueil inconditionnel destiné aux Français, mais aussi aux étrangers, qu'ils soient en règle ou non, et procéder dans des situations d'urgence à la réquisition des logements vides nécessaires pour loger les sans-abri. Le NFP veut également...
Il va en avoir une coupe à réquisitionner
après les Olympiques, hein? J'allais dire aussi. Le NFP veut également abroger les lois asile et immigration de 2018 et de 2023, mettre en place une agence de sauvetage en mer et sur terre en appui à l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, assurer un accompagnement social et une autorisation de travailler pour les demandeurs d'asile, faciliter l'accès aux visas, régulariser les travailleurs, étudiants, parents d'enfants scolarisés et instituer la carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence. L'Alliance de gauche souhaite par ailleurs créer un statut de déplacé climatique et en terminant sur leurs promesses, la gauche entend aussi créer des voies légales et sécurisées d'immigration, reviser le pacte asile d'immigration européen pour un accueil digne, garantir l'accès à l'aide médicale d'État et le droit du sol intégral pour les enfants nés en France.
C'est bon.
On verra ce qu'ils peuvent faire et ce qui sera fait, évidemment. En terminant, sur le terrain, la lutte contre les migrants, par exemple, continue aussi. Un nouveau barrage anti-migrants vient d'être installé dans le nord de la France. On retourne dans le nord, d'où partent de nombreuses embarcations à destination de l'Angleterre. Trois autres dispositifs similaires sont déjà installés dans la même zone. Les autorités françaises espèrent ainsi bloquer les embarcations avant que ces dernières n'atteignent la mer et ensuite le Royaume-Uni.
C'est dans la Canche, hein, je pense.
La rivière qui s'appelle la Canche, exactement. Tu suis pas mal ça, Marie-Ève. D'ailleurs, 12 000 migrants, moi j'ai des chiffres de 12 000 migrants ont traversé la Manche depuis le début de l'année, 35% de plus que la même période l'an passé. Toi, t'avais 14 000 tantôt.
Oui, parce que mes chiffres, ils datent de hier.
Excusez. Selon les associations d'aide aux migrants...
C'est 2 000 en un mois de plus.
Ouais, c'est ça.
Un zéro marié.
Pendant la campagne électorale, en plus, hein. Selon les associations d'aide aux migrants, ces barrages flottants augmentent au contraire les risques liés aux traversées. En mars dernier, un Syrien de 27 ans et une fillette irakienne de 7 ans ont péri noyés dans le canal de Laa en essayant de monter dans une embarcation de fortune dans un endroit un peu plus dangereux. Au total, au moins 16 exilés sont morts en tentant de traverser la Manche depuis le début de l'année 2024. Ils étaient 12 pour l'ensemble de l'année 2023 et un seul en 2022. Donc, voilà pour mes nouvelles françaises.
Bien, merci, mon cher Mathieu. Écoute, on va aller en musique. On va rester dans le coin d'où est-ce qu'on est, c'est-à-dire Royaume-Uni, France. On va écouter Ibibio Sound Machine, Political Incorrect.
Anti-social media, we don't talk anymore. Anti-social media, we don't talk anymore. The likes of me, shadows on the screen, stripes on a zebra. No need to talk, it's easier. But when you point one finger at me, the other four are pointing back at you. When you point one finger at me, the other four are pointing back at you. It's when we chose to be close, but now we thought we don't know what to do.
Le groupe londonien Ibibio Sound Machine avec la pièce Political Incorrect qui est tirée de leur dernier album intitulé Pull the Rope, paru en mai dernier et qui figure à la 17e position du palmarès international de choc. Formé par la chanteuse d'origine nigériane Eno Williams, le groupe est en tournée nord-américaine et donc vous pourrez groover sur leur afro-disco funk le 18 juillet au Théâtre Fairmont à Montréal dans le cadre du festival Nuit d'Afrique.
Oh yeah!
Alors, on reste en Europe où les démarches d'obtention de visa pour les ressortissants de pays africains prennent des allures de parcours d'obstacles quasi infranchissables. C'est du moins ce que révèle une étude du cabinet conseil spécialisé en immigration Henley & Partners, drôle de nom pour un cabinet conseil en immigration, mais bon, basé au Royaume-Uni. L'étude a observé que les citoyens et citoyennes des pays africains peuvent être confrontés à des taux de refus jusqu'à 10% plus élevés que la moyenne mondiale. Le cabinet conseil a évalué ce qu'on appelle le pouvoir des passeports, c'est-à-dire le taux d'obtention d'un visa de court séjour à travers le monde selon la nationalité des demandeurs. Les passeports issus de l'Union africaine, par exemple, ont obtenu un score de 28 %, soit clairement moins que les passeports des ressortissants italiens, français, britanniques, américains, allemands, canadiens et japonais, qui affichent un score de réussite de 85 %. Et plus largement, pour les passeports de l'Union européenne, eux, ils ont obtenu un score de 84 %. Pour Henley and Partners, les pratiques des pays de la zone Schengen sont discriminatoires. En 2022, selon l'étude, l'Algérie, la Guinée et le Nigeria y ont tous vu leur taux de refus de visa avoisiner les 45 %. À titre de comparaison, un seul demandeur états-unien sur 25 s'est refusé les mêmes types de visas pour les pays européens membres de l'espace Schengen.
Il devait vraiment pas se qualifier.
L'étude montre plus largement que les voyageurs originaires des pays les plus pauvres du monde ont le moins de chances de décrocher un visa. Par exemple, les ressortissants d'Inde et de Turquie auraient essuyé moins de refus que les demandeurs de la majorité des pays africains. Il y a différents facteurs qui expliquent ces disparités-là. D'abord, dans certains pays, les demandeurs doivent se rendre dans un État voisin pour déposer leur demande. Par exemple, les demandeurs de la Sierra Leone qui souhaitent obtenir un visa pour l'Allemagne doivent soumettre leur demande par l'intermédiaire de l'ambassade d'Allemagne à Accra, au Ghana, parce que l'ambassade d'Allemagne en Sierra Leone n'a pas de section de services consulaires. Compte tenu du fait qu'il faut parfois plusieurs déplacements pour compléter la demande, ben il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas. Ensuite, pour de nombreuses destinations, les candidats doivent prouver qu'ils disposent d'une certaine somme d'argent à la banque afin de garantir qu'ils seront en mesure de financer leur séjour dans l'Union européenne. Ça, on le sait. Et puis, on sait aussi que c'est pas possible pour beaucoup de personnes. Mais selon l'auteur de l'étude, Mehari Tadelemaru, professeur au Migration Policy Center de l'Institut universitaire européen, c'est surtout en raison de rapports de force politique. Selon lui, les refus ou délivrances de visas sont régulièrement utilisés comme un outil de pression par les gouvernements européens dans leurs négociations avec des pays tiers, en particulier lorsque ces négociations-là portent sur l'expulsion de ressortissants qui sont entrés en Europe illégalement. Et donc, cette situation-là est payante pour l'Union européenne, puisque en 2023, elle a empoché 56 millions d'euros de la part de ressortissants africains qui n'ont finalement pas obtenu le visa pour se rendre en Europe. C'est 43 % du montant total généré par les demandes rejetées en 2023 par les pays européens. Fait que c'est énorme. Le montant total s'est élevé à 130 millions d'euros. Fait que je me tourne maintenant vers Simon, avec qui on se déplace vers l'Est, en commençant par quel pays, Simon?
Par la Hongrie. Ensuite, on va aller dans les Balkans, Albanie, Bulgarie, Serbie. Mais donc, la Hongrie qui paie très cher ses politiques racistes et sa non-conformité avec le droit européen en matière d'asile. La Cour de justice de l'Union européenne a condamné Budapest à une amende de 200 millions d'euros. Oh. Donc, c'est plus d'argent que ce que les pays refusent en termes de demande d'asile.
Exact.
Un tel montant, ça n'est jamais arrivé dans l'Union européenne, dans son histoire. Et en plus, il faut ajouter à cette coquette somme 1 million d'euros par jour à partir du 13 juin dernier, tant que la Hongrie ne se sera pas conformée à un arrêté de justice sur les quotas minimum de demande d'asile et sur la façon dont les demandes peuvent être effectuées.
OK.
Il faut savoir que la Hongrie a souvent décrété des périodes durant lesquelles aucune demande d'asile n'est reçue, ce qui est illégal. Et les seules demandes que la Hongrie accepte quand elle veut bien l'accepter, ce sont celles qui proviennent d'une zone de transit à la frontière serbe, dans des camps de détention, ou encore celles qui ont été effectuées dans ces ambassades à l'étranger, ou comme pour l'Allemagne en Afrique, là, à certains points de service bien sélectionnés.
Bien spécifiques, oui.
C'est ça. Donc, ce qui n'est pas non plus légal, parce que normalement, à tout poste frontalier et en tout temps, une personne migrante doit être en mesure de demander l'asile selon le droit international.
C'est un peu la base du droit d'asile.
Effectivement. Donc, toutes des restrictions qui font en sorte que, sur la répartition des migrants entre États membres de l'Union européenne, la Hongrie est loin de faire sa part. Selon Bruxelles. Viktor Orban s'est fait aller, le nouveau copain du Front National, ils ont fait des alliances cette semaine. Donc, Viktor Orban s'est fait aller le compte Twitter, il a gazouillé sa consternation et il s'est dit puni pour avoir défendu les frontières de l'Union européenne. Donc, parlant de frontières, on arrive dans les Balkans. La Serbie, qui fait pas partie de l'Union européenne, a pourtant signé un accord autorisant l'agence européenne Frontex à surveiller ses frontières. C'est de la Serbie, donc, avec celle de l'Albanie, de la Macédoine du Nord et celle avec le Monténégro. Chaque année, on compte environ 100 000 personnes migrantes qui ont traversé la Serbie du sud vers le nord jusqu'en Autriche ou en Hongrie. Ce genre d'accord-là, en soi, c'est rien de vraiment nouveau. Ça fait plusieurs années que Bruxelles allonge les millions et envoie des effectifs aux frontières des pays des Balkans. Mais on est dans une tendance lourde à la consolidation de cette présence militaire européenne dans la région. Entre 2021 et 2024, l'Union européenne a augmenté son financement sécuritaire dans les Balkans de 60 % pour atteindre 350 millions d'euros annuellement, ce qui est énorme. Et la Serbie, qui est candidate à l'adhésion à l'Union européenne depuis des années, évidemment, elle est très accommodante et n'a aucun problème à céder une partie de sa souveraineté.
Ouais.
Pour montrer patte blanche. Dans le pays voisin, l'Albanie, c'est pas avec Bruxelles directement, mais avec Rome. On vous en parlait il y a quelques mois, là, avec qui on avait conclu un accord pour céder des parcelles de terrain pour que le gouvernement italien construise et opère deux camps de rétention. Ouais. Où on va envoyer de force des migrants jusqu'à 36 000 qui ont atteint les eaux italiennes pendant qu'on traite leur demande d'asile. Les constructions vont bon train, les camps devraient être opérationnels au mois d'août. Mais il y a un article récent d'Infomigrants qui nous apprend que l'opinion publique n'est pas très enthousiaste avec ce projet-là.
Okay.
L'un des deux camps se trouve dans une ville balnéaire très touristique et les commerçants locaux ont peur que ça fasse fuir la clientèle. L'emplacement de l'autre camp de rétention est plutôt agricole.
Les Italiens!
Je sais pas où ils vont passer leurs vacances, là, mais ça se pourrait,
ça
en fait.
Très, très drôle.
Ils se ramasseraient avec leurs propres déportés.
Ben oui, c'est ça. C'est, hey, allô, c'est comme un boomerang. Hein.
Ils faisaient peut-être des Russes aussi. Je sais pas, j'ai aucune idée, en fait, là, de la fréquentation touristique de l'Albanie. L'emplacement de l'autre camp est plutôt dans zone agricole et là aussi, il y a de l'opposition, mais pas tant pour des raisons économiques. On déplore plutôt la perte de souveraineté nationale et on a peur de devenir un hotspot migratoire.
Ben oui.
Sur les médias sociaux, on agite le spectre de Lesbos ou de Lampedusa avec photos pas toujours authentiques de camps débordés et insalubres.
Ouais.
Mais dans l'article d'Infomigrants, dont le titre est « Les Albanais perplexes au sujet des nouveaux centres de rétention de migrants voulus par l'Italie », on apprend quelques éléments intéressants, dont le fait qu'il n'y a pas vraiment d'extrême droite ou de mouvement identitaire organisé en Albanie, ni médiatique, ni politique, donc je ne savais pas ça. Ça doit être un des rares pays européens.
C'est pas de l'ironie, là, c'est
non,
pas
non,
vrai.
Non, c'est vrai.
Okay.
On apprend aussi que cette opposition au camp italien, elle existe, oui, mais elle est quand même timide, puisque les Albanais forment un peuple, paraît-il, fortement marqué par les dictatures. Ben, ça pas paraît-il, là, fortement marqué par les dictatures. Donc, le gouvernement est en général peu critiqué. Il reste assez autoritaire, donc le réflexe général est de se ranger derrière lui. On apprend aussi qu'étant donné que les Albanais forment une diaspora très importante, les craintes par rapport au camp, paradoxalement, elles sont aussi accompagnées d'une certaine solidarité envers les personnes migrantes. Et on nous parle aussi, ça c'est intéressant, du fait que la nation albanaise a développé le sentiment d'avoir une dette envers l'Italie depuis les années 90. Quand la dictature s'est effondrée, le pays a vécu une période très difficile et des centaines de milliers d'Albanais ont traversé la mer Adriatique vers l'Italie, qui pourtant n'a pas été très accueillante, pas au début de la vague migratoire albanaise. Mais je vais nuancer. Les autorités italiennes avaient cherché par tous les moyens à refouler les réfugiés albanais à l'époque. Mais tous ceux qui témoignent aujourd'hui, qui ont vécu cette période-là, disent que la population civile italienne a été, paraît-il, très accueillante, très accommodante et très généreuse.
OK.
Envers les réfugiés albanais. Donc, d'ailleurs, cet exode de masse est à l'origine du plus grand débarquement de migrants jamais réalisé dans un seul navire en Italie. 20 000 personnes d'un coup, le 8 août 91, à bord du cargo Vlora, dans le port de Bari, dans les Pouilles.
Ben, donc, voyons donc, je connaissais pas cette histoire-là du tout.
On sert souvent de photos de l'exode des Albanais dans des fake news actuelles pour dire, voyez l'exode des migrants,
on dit
que ça se passe aujourd'hui.
OK.
Je termine cette incursion dans les Balkans avec une suggestion de lecture, toujours sur Infomigrants. Je sais pas ce qu'on ferait sans eux.
Non, moi non plus.
l'article s'intitule « Rester ou partir, le droit d'asile en Bulgarie, pays de transit ». Peu difficile à résumer parce que c'est un grand dossier qui dresse le portrait actuel de la situation migratoire en Bulgarie.
Ouais, j'en avais parlé un petit peu à la dernière émission.
Oui, on apprend d'autres choses. En plus, on y parle beaucoup des très mauvaises conditions dans les camps pour migrants, ça t'en parlait. On y parle des difficultés administratives. Beaucoup de migrants qui, à cause de certaines technicalités liées aux accords de Dublin, se retrouvent enregistrés dans ce pays alors que leur destination souhaitée n'est pas la Bulgarie, mais des pays d'Europe de l'Ouest ou du Nord.
Ah, fait que là, ils sont comme pognés. Là, dans le fond?
Ben oui, parce que normalement, si on s'enregistre dans ce pays-là, c'est pour y vivre. Donc, ça n'autorise pas à voyager dans d'autres pays.
Ça.
Aussitôt qu'ils en sortent, ils se clandestinisent.
OK.
Donc, il y en aurait 20 à 25 000 demandes officiellement enregistrées chaque année en Bulgarie. J'ai l'impression que 2 ou 3 % seulement souhaitent vraiment y être.
Ouais.
Puis la plupart des autorisations ne sont même pas un droit d'asile. En fait, c'est une autorisation de séjour subsidiaire, donc une autorisation temporaire de séjour assortie quand même d'un permis de travail, mais tout ça vient avec une date d'échéance. Ça peut aussi être renouvelé, mais au final, on comprend que le statut de réfugié définitif est peu accordé en Bulgarie et la protection temporaire ne permet pas de voyager, comme je disais, vers les autres pays européens ou d'y faire une autre demande d'asile, puisqu'on a déjà fait une demande d'asile en Bulgarie, même si c'était pas ce qu'on souhaitait
non,
faire.
Non, c'est ça.
Donc voilà, c'est un peu une manière de...
Peux-tu répéter le titre de l'article en question?
Le titre de l'article, c'est sur Info Migrants, c'est « Rester ou partir, le droit d'asile en Bulgarie, pays de transit ».
OK.
Très intéressant.
Ben merci, Simon.
Ça fait plaisir.
On te retrouve tout bientôt.
Je reste à tes côtés.
Ben oui. Après, c'est quelques notes de musique. Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca avec les apatrides anonymes. Il y a quelques semaines, peut-être dernière émission, je me souviens plus, je vous ai parlé du racisme que subissaient des membres racisés du personnel dans un CHSLD de Drummondville, à la fois là de la part des résidents, mais surtout de leurs collègues de travail. Eh bien, à la résidence pour aînés Rosemont-les-Cartiers, à Montréal, deux résidents ont pris l'initiative de réaliser des entrevues et des petits portraits de personnel pour lutter justement contre le racisme. Anne-Marie Desroches, une retraitée de 65 ans, et son voisin Claude Girard, bientôt 80 ans, ont eu cette idée de créer des petits portraits pendant c'était pendant une réunion en février là, organisée par la directrice et où il avait été question de racisme à l'encontre des employés de la salle à manger lors du service aux tables. Il y a une centaine de résidents qui étaient présents à cette réunion-là sur les 785 que compte la résidence. C'est une résidence privée, donc pour aînés qui sert près de 600 repas par jour, donc il y a du monde qui passe par la salle à manger. Les 22 employés de la salle à manger sont presque tous noirs, originaires d'Afrique de l'Ouest ou d'Haïti. Il y a un employé qui vient d'Algérie et une seule est québécoise. Alors, Anne-Marie a réalisé 22 entrevues, donc avec les préposés au service aux tables. Et Claude, lui, s'est chargé du graphisme. C'est aussi lui qui a eu l'idée de faire appel aux résidents et résidentes pour qu'ils parrainent chaque employé dont il faisait un portrait et dont les fiches sont ensuite sont posées maintenant sur les tables de la salle à manger accessible à tout le monde et tout ça pour favoriser le dialogue. Il y a Nelly Atiogbe, une jeune Togolaise qui est au Canada depuis bientôt un an et qui travaille là dans la résidence comme serveuse depuis près de 6 mois. Elle dit que il y a un résident d'ailleurs qui a accepté là, de la présenter sur sa fiche et elle trouve que depuis ça a changé le regard des résidents dans la salle à manger. Elle se fait poser des questions sur son pays ou sur sa vie personnelle. Je la cite. Ils connaissent plus notre vécu, ils savent ce qu'on a traversé avant de venir ici, ils s'intéressent vraiment, c'est touchant, vraiment ça fait plaisir, ils veulent nous connaître. Je ferme la citation. Évidemment, une telle initiative, si positive soit-elle, ne change pas grand-chose si elle reste isolée ou si elle s'accompagne pas là, d'une réelle volonté de la direction de lutter fermement contre le racisme. C'est le cas dans ce cas-ci de la directrice générale Angela Minicucci, pour qui c'est tolérance zéro. Et ça va au-delà des belles paroles aussi parce que, elle s'informe auprès des employés en organisant des rencontres régulières en petits groupes de 10 à 15 personnes pour savoir s'ils sont bien accueillis, s'ils sont respectés, s'ils se sentent bien. Et puis même si ces nouveaux arrivants-là vivent dans la peur d'être jugés, sanctionnés ou de perdre leur emploi, ils lui parlent du racisme qu'ils subissent parce qu'elle réussit à créer un espace de confiance. Un espace de confiance aussi parce qu'elle agit, elle organise des rencontres avec les résidents, les employés, les chefs de département. Et si le racisme vient d'un résident, par exemple, elle rencontre en tête-à-tête le prévient que c'est à lui de s'adapter, ben, puis que sinon, ben, il a juste à changer de résidence. Mmh. Il y a 3 personnes qui ont préféré partir plutôt que de changer de comportement. Et d'autres se sont fait expulser de la salle à manger et à ce jour, se font encore livrer leur repas dans leur chambre.
Bien fait quand même.
Donc, tout ça pour dire qu'aux apatrides aussi, on a notre bonne nouvelle du jour.
Ça fait du bien. C'est une initiative de résidents, tu
ouais,
disais.
De deux résidents, cool. Ouais, un monsieur, un homme et une femme qui est résident, ouais, qui ont... C'est ça. Fait que je trouvais ça cute. C'est un peu de beau...
Belle histoire.
Oui. Surtout avant tes actualités un ouais. petit peu plus moroses,
je
Simon.
Je vais vous donner
c'est
ça, là. Ça.
J'ai dit si je voulais équilibrer un peu ça.
Bon, ben je commence avec une petite manchette plutôt insignifiante. Un événement qui s'est produit dans un parc du quartier Hunsick à Montréal, qui a été monté en épingle par les catholaïques extrémistes habituels. Mmh. Ça s'est enflammé dans les réseaux sociaux et évidemment dans les plateformes médiatiques de l'Empire Poubelle. Tout ça pourquoi? Il y a des musulmans qui s'étaient réunis au parc des Hirondelles avec l'autorisation de l'arrondissement pour célébrer la fête de l'Aïd al-Adha. Il y a eu une prière de quelques minutes qui a été filmée par téléphone et la vidéo s'est propagée à vitesse grand V avec des messages du genre « Un parc transformé en mosquée où les islamistes prennent le contrôle de nos parcs publics », suivi
oui.
d'une quantité de plaintes sans précédent auprès de l'arrondissement, dont plusieurs plaignants qui habitent même pas dans le secteur et qui n'ont probablement jamais fréquenté le parc des Hirondelles et qui savent même pas c'est où, je te gâche. Ce qui fait dire à plein d'observateurs que des manifestations religieuses dans l'espace public, il y en a souvent, il y en a partout, de toutes les confessions, juives, catholiques, Krishna, mormons, témoins de Jéhovah, etc. Et que jamais ça génère de réactions aussi vives, réactions que les organisateurs d'événements jugent complètement disproportionnées, deux poids, deux mesures, donc islamophobes.
Ben oui.
Je consacre le reste de mon segment à la police et aux enquêtes sur la police qui sont décriées depuis des années pour leur manque d'indépendance et d'impartialité. Là, je parle pas de profilage, je parle plus de trucs à l'interne. Ça part d'un vaste dossier qui a été mené par Le Devoir. J'étais un peu surpris. Donc, plusieurs articles bien fouillés, publiés en série les 17 et 18 juin dernier, signés par Amélie Pineda et Stéphanie Vallet. Les titres vont vous donner une bonne idée de la teneur de ces articles assez choquants. Par exemple, « Violence sexuelle et conjugale surreprésentée chez les policiers », ou encore « Statut particulier, sanctions particulières pour les policiers accusés aux criminels » et le dernier « Des policiers solidaires, même dans la criminalité ». Le ton est donné. Parmi ce qui est dénoncé, l'omerta et l'esprit de corps souvent total et indéfectible contre un agent de police qui aurait dénoncé un collègue, peu importe la nature ou la gravité des allégations, souvent contre des agentes qui dénoncent des agressions sexuelles. On déplore le rôle très actif, voire agressif des syndicats policiers dans la défense absolue et aveugle de leurs membres et le harcèlement, l'intimidation, la mise à l'écart qu'on fait systématiquement subir aux personnes plaignantes jusqu'à ce qu'elles craquent et qu'elles changent de corps de police, mais bien souvent de carrière parce que ça se parle entre corps de police et entre syndicats. On n'hésite pas à se présenter en gang lors d'audiences devant juge ou arbitre. On s'interpose, on fait du chahut, on essaie de produire en preuve des lettres élogieuses des collègues accusés. Tous les coups sont permis pour protéger les accusés, même ceux qui font l'objet de plusieurs plaintes provenant de différentes personnes, collègues ou proches ou membres de la famille, qui ne sont pas policiers, comme les conjointes d'agents de police qui sont victimes de violences par leur mari. Il semble aussi avoir une disparité assez importante dans le remboursement des frais juridiques, pratiquement toujours assumés par le syndicat pour la partie défendresse, mais beaucoup moins pour la partie plaignante quand elle fait partie de la police, évidemment.
Ben ouais.
Dans le texte « Violences sexuelles et conjugales surreprésentées chez les policiers », on apprend qu'un policier sur deux accusé au criminel dans les 5 dernières années l'a été pour des infractions liées aux violences conjugales ou sexuelles, une proportion 2 fois plus élevée que dans la population générale. Cette disproportion est probablement pas étrangère au fait que cette impunité qu'on constate année après année, elle est connue des policiers qui se sentent probablement protégés ou invincibles. C'est un article difficile à lire. On y trouve plusieurs transcriptions de messages extrêmement violents d'un policier, Mario Cloutier, à sa conjointe, dans laquelle il la menace de coups et blessures et même de mort par balle dans la tête. Et je sais pas si on doit être surpris, mais malgré la preuve accablante, il a bénéficié d'une absolution conditionnelle de la part d'un juge masculin, bien sûr. Donc, pas de dossier criminel pour lui et rien ne l'empêche de travailler, par exemple, dans une agence de sécurité privée. Et le port d'armes dans le cadre d'un emploi demeurera permis pour lui. Une des condamnations qu'on constate souvent aussi quand la culpabilité est reconnue en matière de violence conjugale ou sexuelle, c'est la signature par le policier d'un engagement à ne pas troubler l'ordre public pour 1 an, comme si ça avait rapport à voir avec la sphère privée. Et c'est pas non plus assorti d'un dossier criminel ou d'une interdiction à réintégrer un corps de police.
Ouais.
Toujours dans les cas de verdict de culpabilité, entre 2018 et 2023, seuls 18 policiers, ou 15 % ont été destitués. Je rappelle qu'ils ont été reconnus coupables d'infractions criminelles. Et la suspension, avec ou sans solde, peu importe le verdict, ça reste l'issue la plus fréquente. Donc, beaucoup d'infos dans ces trois longs articles d'une série du Devoir sur l'impunité dans la police. Je vous invite vraiment à, parce que là, j'ai fait ça rapidement, là, c'est quand même des longs articles, donc peut-être prendre un 45 minutes, une heure pour les lire et les digérer. Il y a plusieurs autres exemples et cas particuliers dont j'ai pas le temps de parler aujourd'hui.
Ouais, Mathieu, puis à ma connaissance, le seul média qui a repris l'information, c'est Pivot. Je suis surpris que nos amis de l'Empire Poubelle ou de Radio-Canada ou de la presse n'aient pas trouvé que c'est un dossier. Parce que c'est vraiment un bon dossier, j'ai lu moi aussi, puis il y a du stock, il y a des exemples. Puis
beaucoup de statistiques.
Statistiques, puis ça fait, ils ont fait une longue recherche, ça fait des années que ça dure, mais bon, ça fait partie de l'omerta, hein, dans les médias aussi.
Exactement.
Ouais. Bon, ben merci autres, on la relaie, en tout cas, cette information-là.
On la relaie, mais on va quand même retenir ton histoire en RPA. question de garder le moral.
Et puis, ben pour aussi garder le moral, on va écouter une pièce qui nous provient de la Colombie. Je vais vous expliquer un plus le contexte. C'est la pièce s'intitule « Pum Cayo ».
Sus principios y su lucha en mi core están. Miro el cielo como un trago y se siente mal, pero con buenas vibras les voy a recordar. Yo soy la voz de muchos que no hablan, se paran, se azaran, bla, 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 se atrancan, la rumba no para y va hasta mañana. Cierren la puerta que aquí nadie falta. Dura vida no es express. Para los míos quiero bless, bless. Para las mías quiero bless, bless. Parcho y pasan los años para olvidarlo. No lo saco de mi cabeza y cuerpo, me y del cora ando flaco. Enciende y me duele, me arde toda la piel. Estamos doble R grafiteando como flex. Nos tiene de pie firmes como las madres de las primeras líneas seguras reclamando el hecho que varios les dijeron madre ya regresó. Recuerdo como si pasara ayer, brindo y bailo por los caídos de ayer, llorando como aguaceros de mayo, cayó el miedo y levantamos la mano.
Un rayo, la rumba no para. Toma un shot para el cuerpo y la cara. Uno, el uno repara.
la pièce Pumcayo, qui a été produite par We Could Be Music, une étiquette de disque à but non lucratif. Ça a été produit pour la campagne d'Amnesty International pour mettre fin aux violences policières lors de manifestations en Colombie. Plus spécifiquement, c'est toute une campagne là, qui a répertorié les cas de violences policières pendant les mobilisations de la grève générale en 2021. Et parmi les trois interprètes, il y a El Dio, qui a perdu un œil après avoir reçu une grenade lacrymo directement dans sa figure. Il y a la compositrice Caro Mosquera, qui est partenaire d'une ONG qui documente les cas de violences sexuelles commis par les membres de la police. Et il y a aussi le trio Afro Legends. Je vous invite à aller voir le vidéo. Pumcayo, c'est très bon.
Oui, des bons textes, ça ouais. Parle des mobilisations aussi, ouais.
Je poursuis ma journée lumière sur des initiatives positives.
Oh, Marie-Ève, c'est l'été, hein?
Qui ont pour but, cette fois, de soutenir des populations autochtones hors réserve. D'abord, le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière, le CAL, a lancé le 21 juin, à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, la clinique mobile Mikanauk, dont l'objectif est d'offrir gratuitement aux Autochtones des services de santé holistique, d'intervention et d'éducation en se déplaçant directement chez les patients. Il s'agit d'une première au Québec. Le CAL a pour mission d'améliorer la qualité de vie des Autochtones vivant en milieu urbain et périurbain de Lanaudière, notamment grâce à des interventions prodiguées par la clinique de proximité Miririmowin. Mais avec la mise en place de la clinique mobile, ben là, la portée des services offerts va s'étendre à l'extérieur des locaux du CAL à Joliette. L'idée a émergé pendant les premiers confinements dus à la pandémie de COVID-19, où l'équipe du CAL s'est retrouvée devant l'impossibilité là, de desservir la population autochtone de Joliette. Puis, ben le décès de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette en septembre 2020 ben, est venu aggraver le phénomène d'isolement dans les communautés autochtones ben oui. Par rapport ben au oui. Système de santé. Alors, la clinique mobile va offrir trois types de services. Des services d'intervention comprenant du soutien psychosocial et des activités ludiques. Des services de santé assurant une sécurité culturelle. Et enfin, des services éducatifs en soutien aux parents pour assurer le développement optimal des jeunes. L'autre initiative, c'est un nouveau programme de logement de transition dans le quartier Milton Park à Montréal qui va permettre à 14 Autochtones d'être logés pour une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans, soit la durée du bail des lieux. Il s'agit de la maison Anna Jarvik qui a été inaugurée à la mi-juin par l'organisme Projet Autochtone du Québec, le PAC. Fondé il y a 20 ans, le PAC est un organisme autochtone qui se concentre sur la précarité du logement à Montréal en mettant en entre autres, l'accent sur l'autonomisation et la réalité culturelle des personnes aidées. Et selon leurs propres données, 20 608 unités et 33 473 repas ont été offerts au courant de la dernière année. CIPAC a déjà une aile de logement transitoire. Ce nouveau programme-là est présenté comme étant unique parce que, ben, principalement en fait par la présence d'espaces ouverts sur les lieux et d'intervenants sur place. La moitié des personnes logées à la maison Anna Jarvik vont être Inuit. Et bon, évidemment, le choix de Milton Park n'est pas anodin. Hein, ah, le non, quartier ouais. a marqué est marqué par une forte itinérance autochtone qui est même considérée comme une crise humanitaire par l'ombudsman de la ville. Mais aussi, c'est que il y a une des logiques là, derrière l'instauration de ce nouveau programme-là de logement et que l'ouverture de logements de transition à proximité d'autres refuges et d'autres ressources ben vient aider à briser l'isolement des personnes qui passent de ces refuges-là à la nouvelle maison et amoindrir à la fois l'isolement et le choc. Et même, bon, évidemment, même si ce programme-là de transition ne viendra pas répondre totalement à la demande dans le quartier, ben c'est quand même un début.
Oui, de la rue au refuge à la maison plus stable. Il y a des beaux projets, mais il n'y en a pas assez, puis c'est pas assez vite.
Hein? Non, c'est même ça, ouais. Un des responsables du projet disait qu'il ne fournirait jamais à la demande. Il en construirait 5 qu'il serait toujours plein.
Oui. Mais il y a plein de choses à faire qui devraient être faites. Mais merci, Marie-Ève. Oui.
Ben, belles oui, initiatives. Ça fait plaisir.
Ben oui, mais c'était comme ta chronique. Ben, oui, là.
C'est ça, là. Un petit peu de beau, là.
Ben oui, tout à fait. Moi, je vais parler d'immigration. Ben, c'est pas dramatique, mais c'est aussi... bon, la conjoncture est moyenne, hein, disons. Je commençais avec des personnes séparées d'un conjoint à l'étranger jugent inhumaine la décision du gouvernement Legault de réduire environ de moitié le nombre de demandes traitées en matière de réunification familiale au Québec. On parle de la décision du gouvernement Legault annoncée dans la Gazette officielle, hein, sans communiqué de presse, sans point de presse, d'imposer une limite quant au nombre de demandes de parrainage et d'un membre de la famille.
Ça a été fait quand, ça?
Qui peut recevoir. Ça a été fait le 25 juin.
OK.
Exactement.
Ah, bonne date aussi, le lendemain de la Saint-Jean.
Oui, oui, tout à, oui, c'est ça. Après la fin de la session parlementaire. Oui. Dans les deux prochaines années, soit d'ici le 25 juin 2026, il en traitera un maximum de 13 000 selon le principe du premier arrivé, premier servi, ce qui représente une diminution d'environ 50 % par rapport à la période 2021 à 2023, où il y avait eu un traitement de 26 000 dossiers dans la catégorie du regroupement familial. L'inventaire est de tout près de 40 000 dossiers en attente. Le délai de traitement moyen pour une situation du genre est de 34 mois au Québec et de 10 mois dans le reste du Canada. On en a parlé déjà à quelques reprises. Essentiellement, au lieu de traiter des nouvelles demandes, le Québec accueillera les personnes dont le dossier était déjà en inventaire et donc en attente depuis des mois, voire des années. L'avocat en droit de l'immigration, Maxime Lapointe, qui avait intenté une poursuite contre la ministre Fréchette en février en raison des longs délais, croit que le gouvernement s'expose à d'autres cours judiciaires. Ce qui est malheureux, c'est qu'on n'a pas présenté ça aux experts, aux citoyens, lors des consultations publiques en septembre 2023 sur les quotas, sur les seuils d'immigration.
Ouais.
C'était pas dans les scénarios à l'époque de réduire de moitié.
Okay.
Donc, c'est une surprise en plus. Actuellement, c'est la panique dans mes clients, explique-t-il. Les gens choisissent d'aller vivre dans d'autres provinces pour avoir des délais de traitement plus raisonnables. Sinon, Mark Miller fait une entrevue de fin d'année avec la presse canadienne, puis il s'est mis à philosopher, puis à réfléchir aux enjeux, puis je vous en lis des extraits. Le ministre canadien...
Je te sens un peu ironique.
Oui, vous allez voir. Je vous raconterai pas tout, mais c'est drôle de lire ces espèces de bilans de fin d'année des fois. Le ministre canadien de l'immigration, Mark Miller, veut une injection de discipline dans le système. Devant l'afflux de personnes arrivées de manière temporaire, il croit qu'il y a lieu de réfléchir à la façon d'offrir à plusieurs de celles-ci une partie des 500 000 nouvelles résidences permanentes qui devraient être accordées chaque année dans les prochaines années. Est-ce qu'il y aurait lieu de transformer ces gens-là en résidents permanents sous les rubriques ou sous les seuils qu'on a déjà établis? Quand on fait ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne vient pas de l'extérieur pour augmenter le volume, a-t-il dit. C'est drôle, hein? Les niveaux par canadien annuels de nouveaux résidents permanents, 485 000 en 2024 et 500 000 en 2025 et 2026, incluent des cibles chiffrées de dossiers à être approuvés par Ottawa dans les programmes économiques ou regroupement familial, pas dans les programmes
d'immigration temporaire
ou d'étudiants ou de réfugiés. Statistique Canada évalue qu'il y avait 2 700 000 résidents non permanents partout au Canada au deuxième trimestre de 2024. Au Québec seulement, l'agence estime qu'il y en a 597 000, mais la commission d'immigration statut réfugié, qui s'en remet une définition moins large et à une méthodologie différente, en dénombre plutôt 388 000, a précisé l'équipe de M. Miller. D'ailleurs, Miller se fait traiter de menteur dans certains médias parce qu'il contestait les chiffres de Statistique Canada, mais le Québec disait autre chose. En tout cas, ça a été une saga il y a deux semaines aussi, dans certains médias. Donc, si on résume, ben, 2 700 000 résidents non permanents, ça c'est un chiffre sûrement conservateur, et il y a 500 000 personnes à accepter à chaque année. Donc, il commence à faire le lien qui pourrait peut-être régulariser des gens qui sont déjà ici.
Ouais, mais en même temps, c'est comme déshabiller Paul pour habiller Pierre, non?
Oui, oui, tout
parce
à fait.
Parce que là,
oui,
c'est, oui. Je veux dire, si on en prend dans cette catégorie-là, mais il va falloir en enlever ailleurs. Là.
Ben, c'est sûr que oui, mais en même temps, des gens qui sont déjà sur place pour toutes sortes de raisons depuis des années.
Il faudrait juste pas les comptabiliser dans les 500 000.
Ben, c'est ça, on pourrait les régulariser. D'ailleurs, j'y arrive, Mariette, tu fais bien. Au sujet des réfugiés qui se trouvent au Québec, M. Miller a noté que des dizaines de milliers d'entre eux sont des personnes protégées en vertu de la Convention de Genève à la suite d'une décision de la Commission, mais se retrouvent coincés puisqu'ils attendent un certificat de sélection du Québec que la province ne délivre pas, puisqu'elle applique le seuil qu'elle s'est fixé en la matière, on sait, au niveau du nombre des... On en a parlé, 50 000 souvent. Plus de 38 000 personnes sont dans cette situation au Québec qui ont été acceptées par la Convention de Genève, par l'international, par le Canada, puis attendre un certificat de sélection, parce qu'on parle souvent des étudiants ou des travailleurs, mais il y a aussi des réfugiés qui attendent vraiment, qui sont officiellement là. Donc, c'est pas une question... Miller conclut en disant c'est malheureux, puisque ce sont des gens qui s'intègrent, qui ont déjà des logements. Ce n'est pas une question de capacité d'accueil. Ils sont déjà là depuis des années. Deux articles que je voulais vous suggérer pour compléter sur Pivot, hein, on fait exprès. Les gouvernements reculent face aux besoins croissants de protection des réfugiés. Un extrait de l'article, c'est sorti le 21 juin. Face à la croissance rapide des déplacements forcés à travers le monde, plusieurs organismes québécois d'aide aux personnes réfugiées se sont rassemblés pour défendre le droit fondamental à chercher l'asile. Ils condamnent la multiplication des restrictions aux frontières et les discours négatifs à l'égard des demandeurs d'asile au Québec et au Canada. Ils font également appel à un meilleur accueil et une meilleure intégration des personnes en quête de refuge. Et l'autre article du 28 juin, régularisation des personnes sans papier, pas pour bientôt et pas pour tous. Les personnes sans statut migratoire devront encore attendre longtemps avant de pouvoir obtenir la résidence et plusieurs d'entre elles pourraient être exclues. Attendu pour ce printemps, le programme permettant d'offrir la résidence permanente aux personnes sans papier ne sera finalement pas annoncé à court terme, a récemment admis le ministre Miller. Les groupes de défense des droits des migrants s'inquiètent aussi que le programme soit bien moins large que ce qui était espéré,
ben oui,
favorisant uniquement certaines personnes travaillant dans des secteurs de l'économie jugés prioritaires. D'ailleurs, Melu a parlé dans la fameuse entrevue trois fois de construction et santé. C'est ça qui l'intéresse là, dans les secteurs économiques.
Ben,
tu me laisses-tu une minute pour terminer?
Oh, oui.
Oui, oui, OK. Oh, oui. Sur le terrain, un petit article de terrain, petite bonne nouvelle quand même. 8 employés mexicains d'Ocean Pride Fisheries ont porté plainte en vertu du Code des normes du travail. La commission du travail de la Nouvelle-Écosse a donné raison aux travailleurs et l'entreprise devra leur verser une somme totale de plus de 23 000 $ en indemnité.
Chacun?
Non, au total.
Okay.
Mais on est en Nouvelle-Écosse, hein? Fait que les 8 employés travaillaient tous comme ouvriers dans une usine de transformation du poisson dans le sud de la province lorsque leur lien d'emploi a pris fin le 10 septembre 2021 de façon abrupte. 4 d'entre eux occupaient les mêmes fonctions de façon saisonnière depuis 3 ans, tandis que les autres depuis 2 ans. Les employés ont décrit de nombreuses difficultés qu'ils ont vécues chez Ocean Pride Fisheries, notamment des blessures et des conditions de travail et de vie défavorables. Le président de la compagnie, Luc Leblanc, n'a pas souhaité donner d'entrevue, mais réitère que les 8 employés n'ont pas été renvoyés, mais ont plutôt démissionné en bloc. La commission ordonne donc à la compagnie de payer à chaque employé les heures impayées, les sommes qui ont été prélevées sur leur salaire, leurs frais d'immigration et un billet de retour vers le Mexique.
Rien de moins.
Stacy Gomez, directrice générale du Centre pour les droits des travailleurs migrants en Nouvelle-Écosse, se réjouit. Elle conclut, le cas de Ocean Pride Fisheries montre que les travailleurs vulnérables peuvent se retourner contre leur employeur et ça aura sûrement des répercussions dans d'autres secteurs. Donc, je dis que Nouvelle-Écosse, c'est rare qu'il y ait des cas puis des gros montants.
Ouais.
Même au Québec, ça commence
parce que
tranquillement.
27 000 pour 3, puis ça inclut le billet d'avion, les heures non payées, pour 8.
Ouais.
En tout cas, c'est ça. Je trouve que c'est pas beaucoup.
Ils seront pas riches au Mexique.
Ben merci.
Merci.
On va s'en aller en musique
Marie-Ève.
vers la sortie. Hein? Avant de conclure cette édition des Apatrides anonymes, des nouvelles de l'Italie de Giorgia Meloni, où le décret Piantedosi du nom de l'actuel ministre italien de l'Intérieur oblige, là, comme on le sait, les navires d'ONG à rejoindre immédiatement le port assigné au débarquement après la première opération de sauvetage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'en faire plus d'une en une sortie en mer. Si officiellement l'objectif du décret phare de la politique migratoire du gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni était de réglementer les opérations de sauvetage de migrants menées par des ONG en Méditerranée, il se trouve que, ben, depuis son entrée en vigueur en début 2023, les ports les plus souvent assignés sont situés dans le nord de l'Italie.
Ah.
Et donc, ainsi, en un an et demi, aucun débarquement de migrants n'a été enregistré à Palerme, tandis que près de 15 000 personnes ont été débarquées dans des villes comme Carrare, Bari, Livourne, Ortona ou Ravenne, selon le quotidien italien La Repubblica. Or, il se trouve que, ben, la plupart de ces villes-là sont administrées par des élus de gauche. Serait-ce donc une manière pour l'exécutif italien d'utiliser ces débarquements-là pour pénaliser la gauche et ses rivaux politiques?
Pour les emmerder.
Ça rappelle les gouverneurs du Texas et de la Floride.
Des États du Sud, exactement, oui. Qui,
ben, qu'ils font toujours.
Qu'ils font toujours.
Ouais.
Prenons l'exemple de Ravenne, une ville située au nord-est de la péninsule, à moins de 150 km, de Venise, qui avait jamais vu d'opération de débarquement de migrants avant l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni. Le maire de Ravenne est Michel De Pascale, membre du Parti démocrate, centre-gauche, la deuxième force politique du pays. Je le cite, « Personne ne nous a averti que le gouvernement avait décidé de ce changement de stratégie et il n'y a aucune rencontre avec les maires concernés, comme nous l'avions sollicité à plusieurs reprises. On nous a simplement prévenu 2 jours avant qu'un navire de migrants devait débarquer dans notre port et on s'est mis à organiser l'accueil. Ça vous donne un peu l'idée de comment c'est... Et lorsqu'on lui demande s'il se sent ciblé en tant qu'élu de gauche par cette politique, il répond de façon assez catégorique, je le cite encore, « S'il faut accueillir ces navires, on le fait volontiers, car c'est un devoir humanitaire. Je suis clairement en faveur de l'accueil des exilés dans notre pays, mais nous voyons bien que nous sommes utilisés par ce gouvernement pour dévier les navires d'ONG et laisser la Méditerranée sans surveillance. Nous contestons ce choix. »
Oui, parce que c'est plus loin par exprès, hein, c'est sûr.
Ben, c'est parce que là, concrètement, là, pour pouvoir débarquer les migrants secourus en Méditerranée, l'Ocean Viking, par exemple, se voit systématiquement assigner des ports situés à des milliers de kilomètres des lieux de sauvetage. Par rapport à la Sicile, par exemple, la région la plus méridionale de l'Italie, le trajet vers les ports du nord du pays peut nécessiter jusqu'à 6 jours de navigation en plus. Là, pendant qu'ils font ça, ils n'en sauvent pas d'autres. Hein? Et c'est donc non seulement absurde sur le plan de l'impact sur l'environnement, mais surtout, ça pénalise, comme je dis, et ralentit les opérations de sauvetage. Et ben, ça fait aussi considérablement augmenter leurs coûts. Selon les calculs d'SOS Méditerranée, l'ONG aurait dépensé 700 000 euros de plus en frais de carburant seulement là, pour l'Ocean Viking seulement depuis l'entrée en vigueur du décret. Fait que, voilà.
On voit la stratégie, ouais.
Oui, c'est ça. Très subtil, comme tu le dis, Mathieu. Je vous rappelle, tristement, ben, que vous pouvez nous écouter hein, sur les ondes FM du 107.9 de Radio Victoria 2 fois par semaine. Vous pouvez aussi le faire en balado en vous rendant sur notre page, sur notre site de choc.ca ou encore sur notre propre site internet www.apatridesanonymes.info. Vous pouvez nous écrire aussi à apatridesanonymes@commercialresist.ca. Puis,
le tristement, c'est que Facebook a banni Choc depuis la semaine passée.
C'est ça.
OK, voilà. Fait
qu'on, parce qu'on finit l'émission.
OK, mais on parlera plus de Facebook pour un bout. Là.
Non. Mange la boîte.
Oui, c'est ça.
On va l'appeler Facebook. Merci à vous deux, extraordinaires co-animateurs.
Merci à toi, Marie-Ève, pour la super animation.
Voyons, j'en perds mes mots, mais merci.
Simon, félicitations.
Merci.
On va se laisser en musique avec le légendaire power trio Melvins et la pièce Working the Ditch qui est tirée de leur plus récent album. Je savais même pas qu'il avait sorti un nouvel album quand même en avril, là, c'est assez récent.
Ouais.
L'album s'intitule Taren to the Heart. Et ben j'ai vérifié, j'ai cherché, il y a malheureusement aucune tournée nord-américaine prévue en 2024. C'est plutôt une tournée du chanteur Buzz Allgrove. Allgrove, oui, qui est prévue avec Trevor Dawn, le bassiste de
Mr. Bungle.
Mr. Bungle, qui font ensemble un duo. Ils font une tournée européenne en 2024. Fait que c'est ça. Fait que, à cause de ça, on verra pas Melvins. Donc, c'est la pièce Working the Ditch des Melvins. Et, on se dit à dans deux semaines.
Oui, bonne soirée.